Je ne sais pas pour vous, mais la prière est, je trouve, un sujet complexe de la vie chrétienne. Sans doute pour ça que je n'avais pas encore fait de message sur le sujet jusqu'à maintenant. Ce n'est pas parce que je suis maintenant devenu plus intelligent, plus érudit, ou que j'ai maintenant tout compris que je vous propose de l'aborder ce matin. C'est simplement parce que nous le savons, la prière est tellement essentielle pour nos vies chrétiennes qu'on ne peut simplement pas la laisser de côté. Chacun d'entre nous, nous prions souvent, sans aucun doute. Mais en parallèle à notre prière, il est aussi probable que de nombreuses questions nous traversent l'esprit quand on y réfléchit un peu. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas répondu à nos prières? Elles étaient pourtant sincères, légitimes, désintéressées. Pour certains sujets, il n'est parfois plus la peine de prier, mais pour d'autres, faut-il continuer encore à prier? Si Dieu n'a pas exaucé, avons-nous manqué de foi? Ou n'était-ce pas la volonté de Dieu? Ou n'était-ce pas le temps de Dieu? Ou pas encore? Aurions-nous dû prier plus intensément, plus nombreux, plus souvent, plus longuement? Dieu aurait-il répondu alors? Nous aurait-il exaucé? Dieu ne sait-il pas déjà tout de toute façon? Alors pourquoi même prier? Qui sommes-nous de toute façon pour pouvoir infléchir ou changer l'ordre des choses et a fortiori la volonté de Dieu? Dieu change-t-il d'ailleurs ses plans en conséquence de nos prières? Etc, etc. Des tas de questions et considérations en lien avec la prière. Assurément, pris sous cet angle, le sujet de la prière est très complexe. Enfin, je trouve. Y a-t-il seulement une bonne réponse? Une réponse tout simplement à tout ce genre de questions? Est-ce que ça ne dépend pas de tellement de paramètres, des circonstances, du sujet concerné, de là ou des personnes concernées? Honnêtement, je ne sais pas vraiment comment y répondre. Sauf bien sûr si votre prière est d'obtenir une Rolls-Royce flambant neuve dans les 5 minutes après votre prière, auquel cas je pense savoir que ce n'est probablement pas conforme à la volonté de Dieu. Et il y a peu de chances que votre prière soit alors exaucée. Mais blague à part, j'espère que cette introduction le montre un peu. On aborde souvent, ou le mot juste serait-il instinctivement, le sujet de la prière sur un mode plutôt quantitatif, sous l'angle demande-réponse. Les besoins sont légitimes, très nombreux, les nôtres, ceux des autres, ceux du monde. Alors c'est plutôt normal, non? La prière sous l'angle demande-réponse. Je demande à Dieu, il me répond, ou il ne me répond pas. Ou je n'ai pas bien demandé, ou je n'ai pas demandé. Avec des qualificatifs éventuels du style un peu, beaucoup, pas beaucoup, avec application, longuement, rapidement, à maintes reprises, longtemps après, ou comme je l'avais demandé, pas comme je l'avais demandé, etc. Je ne sais pas si le mot est juste, mais en somme, une vision un peu comptable de la prière, mode quantitatif. Est-ce que la prière se limite à ça? Comme presque tous les cas de figure sont possibles dans ce genre de considération, et qu'il est à mon avis très difficile, sinon impossible, de trouver et de définir une règle quant à la réponse ou non-réponse de Dieu, et ne voulant pas nous perdre en conjecture, je vous propose un angle un peu différent ce matin. Et peut-être pouvons-nous commencer par considérer l'exemple d'un personnage biblique. Qui était particulièrement homme de prière dans les Écritures, selon vous? Des idées? Élie? Oui. Moïse, David. C'est pas faux. Jésus aussi était évidemment homme de prière. Marc 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Marc 6, 46. Quand Jésus eut renvoyé la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. Luc 5, 16. Lui, Jésus, se retirait dans les déserts pour prier. Luc 6, 12. Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Ces quelques versets suffiront. On ne va pas lire tous les versets qui attestent que Jésus était un homme de prière. Je pense que nous n'avons aucun doute là-dessus. Vous me direz sans doute, oui, bon, mais lui, Jésus, il avait un petit avantage sur nous. Il est Dieu. C'est vrai. Et ce n'est pas un petit avantage, évidemment. Mais alors, pourquoi priait-il si souvent Dieu, si lui-même était Dieu? Vous me direz aussi, probablement à juste titre, parce qu'il était également homme. Vrai aussi. Et donc très probable, en effet. En tant qu'homme, il avait besoin de prier. Mais que pouvait-il, mais que pouvaient bien être ces prières de Jésus, qui duraient parfois pendant des heures, voire toute la nuit, comme le dit ce dernier verset que nous avons lu? En quoi consistait tout ce temps de prière? Les indices sont bien maigres, et il n'y a pas vraiment de détails dans les versets que nous avons lus, même si leurs contextes peuvent parfois donner quelques pistes de sujets de prière. Et j'ai essayé de reparcourir les évangiles rapidement pour voir. Et sauf erreur de ma part, à part ce qu'on appelle la prière sacerdotale en Jean 17, un fabuleux passage où Jésus prie pour ses disciples, et nous, futurs disciples en particulier, ou encore la prière dans le jardin de Gethsémané, mentionnée dans les trois autres évangiles, un moment d'une grande intensité qui nous montre pour une rare fois combien Jésus a eu besoin de prier pour lui-même, pour être fortifié et encouragé pour faire la volonté du Père. À part ces deux passages, je n'ai pas trouvé le passage ou le contenu ou la forme des temps de prière de Jésus, pourtant très fréquent, nous soit rapporté en détail, nous soit expliqué. Dans un autre passage, les paroles du Notre Père ne nous rapportent pas, à proprement parler, un moment de prière de Jésus, mais un enseignement qu'il a délivré à ses disciples suite à une question de leur part. Petite parenthèse d'ailleurs, Jésus a sûrement lui-même mis en pratique une partie de ces paroles du Notre Père dans ses prières. Pas toutes, puisque la phrase sur le pardon de ses offenses, par exemple, n'a pas lieu d'être pour ce qui le concerne, contrairement à nous, puisque lui était parfait. Ce n'était donc pas une prière de Jésus à proprement parler. Mais de toute façon, à moins de les répéter inlassablement, les paroles du Notre Père ne suffisent pas à remplir une nuit de prière. Et à mon avis encore, Jésus nous a certainement pas transmis là un mantra à répéter et encore répéter. Cela contredirait d'autres paroles qu'il a faites sur la prière, en Matthieu 6-7 par exemple, où il dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » En quoi consistait donc tout ce temps de prière de Jésus alors? La question reste ouverte. Jésus connaissait parfaitement les besoins des autres, et non seulement leurs besoins, mais aussi leurs pensées, même leurs pensées secrètes. Et nombreux sont les versets qui nous le disent. Par exemple, en Matthieu 9, verset 4, « Jésus, connaissant leurs pensées », ou Jean 2, 24, « Jésus les connaissait tous ». Et pas simplement de nom, il connaissait leurs intentions, etc., etc., leurs pensées. Jésus savait aussi que Dieu l'exauce toujours. En Jean 11, verset 42, il nous dit « Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. » Et plus encore, Jésus connaissait aussi déjà parfaitement la volonté de Dieu. Et non seulement la connaissait, mais même la mettait déjà parfaitement en pratique. Jean 8, verset 29 « Je fais toujours ce qui lui est agréable, » disait Jésus. Jésus faisait toujours ce qui est agréable à Dieu. Franchement, qu'avait-il donc besoin de prier? Pas de prière de pardon formulée? Pas de questions concernant ce qu'il faut dire ou faire pour les autres? Pas de décision sur le chemin à prendre? Sauf dans le cas particulier de Gethsémané. Pas de doute sur la volonté de Dieu? Pas de doute sur ce que Dieu exaucerait ou pas? Franchement, qu'avait-il donc besoin de prier? Que pouvait-il demander à Dieu? Avait-il tant de choses à demander? Mais était-ce même pour adresser des demandes à Dieu qu'il priait? Des prières quantitatives, pour reprendre mon expression de tout à l'heure. En partie probablement, mais à mon avis pas principalement. Je ne suis bien sûr pas dans le secret des cœurs de Dieu et de la vie de Jésus, mais en toute humilité, je pense que le besoin de Jésus était avant tout de passer du temps dans l'intimité avec le Père. avant tout un besoin de communion, un besoin de relation avec lui. Le besoin de Jésus était de passer du temps dans l'intimité avec le Père, un besoin de communion, un besoin de relation avec lui. Simplement passer du temps ensemble pour être renouvelé. De toute éternité, Jésus, Dieu le Fils, était un avec Dieu le Père et un avec Dieu le Saint-Esprit, en parfaite et étroite et constante communion de toute éternité. On s'y habitue sûrement. Cependant, pour les besoins du plan de salut de l'humanité, Jésus a dû s'incarner et ainsi temporairement et partiellement altérer d'une certaine façon cette communion. Comme le souligne Philippiens 2, versets 6 et 7, « Lui qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. » Il avait donc particulièrement besoin de continuer à vivre cette fabuleuse communion, de rechercher et de renouveler sa parfaite intimité avec les autres personnes de la Trinité. Ça nous dépasse peut-être un peu, à juste titre, mais recherche de communion, recherche d'une relation approfondie, plus intime avec Dieu, voilà ce que devrait être aussi notre motivation première, notre besoin dans la prière. Voilà ce que devrait être ma motivation, comme pour Jésus. D'autant plus que nous avons plus de difficultés et de limites quant à notre compréhension des autres, notre compréhension de nous-mêmes, ainsi que dans notre compréhension de Dieu et de sa volonté, au contraire de Jésus. Assurément, il nous faut une relation approfondie, une intimité accrue pour grandir dans ce domaine. Oh oui, il nous le faut. On n'est alors pas dans le quantitatif, mais bien dans le qualitatif. Et pour sûr, c'est bien une relation de qualité que Dieu souhaite avec nous. Dieu souhaite une relation de qualité avec chacun d'entre nous. Dieu souhaite une relation de qualité avec chacun d'entre nous. Plus que souhaite même, demande, espère. Est-ce aussi notre aspiration? Est-ce aussi ce que nous lui offrons dans notre quotidien? Dieu vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit 1 Corinthiens 1:9. La communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, ajoute 1 Jean 1:3. Quand vous avez connu votre femme ou votre mari, quand vous vous fréquentiez, comme on dit, n'était-ce pas votre plus fort souhait, passer du temps avec elle ou avec lui? Simplement passer du temps ensemble. Si, bien sûr. Et personne n'avait besoin de vous forcer. Au contraire. Dans la vision de l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse, Jésus reproche à une église la perte de son premier amour. C'est exactement ça. Peut-être que notre premier amour pour Dieu s'est un peu fané. Demandons-lui de le raviver, de le développer. Et le meilleur moyen, il nous faut passer simplement du temps avec notre Dieu. Même sans parole, même sans demande, même sans réponse, juste en communion avec lui. Est-ce aussi notre aspiration? Est-ce aussi ce que nous lui offrons, ce que nous lui demandons dans notre quotidien? Si nous pensons ne pas en avoir besoin, alors très certainement c'est que nous n'avons pas encore goûté toute la formidable saveur de cette relation et que nous n'avons pas encore pleinement conscience du besoin qui est le nôtre, d'être renouvelé et être toujours plus en communion avec notre Sauveur. Ou nous avons oublié. Sommes-nous plus grands ou plus indépendants que Jésus pour pouvoir, ou prétendre pouvoir, ou croire pouvoir nous en passer? Oh que non. Les disciples d'Emmaüs avaient le cœur qui leur brûlait au-dedans d'eux quand Jésus leur parlait, nous rapporte une parole de l'évangile de Luc. Ils sont une sensation extraordinaire, certainement, qui les a transformés. Et je pense que c'est quelque chose comme ça que Dieu nous propose. Il nous y invite, en tout cas. En parlant d'Emmaüs, justement, j'ai commencé fin septembre la formation à Emmaüs, l'Institut biblique et missionnaire Emmaüs, juste en face, de l'autre côté du lac. Et au-delà des cours, ce qui m'a tout de suite plu, c'est l'état d'esprit du corps enseignant. Nous avons eu les deux premiers jours une sorte de petite retraite spirituelle, et le mot d'ordre était « Ne perdez pas de vue votre relation avec Dieu, votre intimité avec le Seigneur. » Car même dans les études théologiques, on peut se laisser déborder par la charge de travail, les devoirs, les cours, les exposés, les recherches, les lectures, etc. Ça vous arrive peut-être aussi. Mais ce qui importe aux enseignants, c'est avant tout notre vie de chrétien, notre vie spirituelle, plus que notre connaissance intellectuelle. Et j'ai trouvé ça une saine et belle préoccupation. Ils ont en effet raison. C'est ce qui doit nous importer aussi. Le reste suivra, selon la volonté de Dieu. Et c'est naturellement ce qui m'importe aussi pour chacun d'entre nous aussi, la qualité de notre relation personnelle, la qualité de notre communion avec le Seigneur, notre Dieu. Oh, je ne vous apprends sans doute rien en vous rappelant cela. Sans aucun doute, c'est un rappel, mais un rappel fréquemment nécessaire, je pense. En tout cas pour moi, oubliez que je suis trop forcément débordé par le quotidien. On ne s'était pas concerté, mais ça rejoint, je pense, très bien la présidence de Cédric qui nous a rappelé cette histoire de Marthe et Marie. Probablement que Dieu a quelque chose à nous dire sur le sujet. Ne nous laissons pas déborder par notre quotidien, les urgences, les impératifs. Facile à dire, pas toujours facile à faire. Et je prends juste l'exemple comme anecdote de la préparation de ce message. J'étais un peu en retard pour le préparer. Et puis, Seigneur, j'ai pas le temps de lire la Bible ce matin pour mon culte personnel. Bon, moi, c'est pas grave, je fais le message d'abord, c'est plus urgent. Exactement ce genre d'exemple qu'on peut dire, allez, bon, ça, je mets un peu de côté ma relation intime personnelle avec Dieu pour faire quelque chose, et même quelque chose pour Dieu. C'était préparer ce message. Alors Dieu, la nuit d'après, pendant une heure, j'ai pas réussi à dormir. Et il dit, je vais prier pendant cette heure-là. Et puis après, quand je me suis réveillé le matin, la fin du message, ça s'est fait super vite, super facile. Et je pense que c'est comme ça dans nos vies tous les jours. Si on prend du temps vraiment à part pour Dieu, si on dit, ok, même le message, même ceci, même cela, je le laisse un peu de côté, je prends d'abord le temps pour Dieu, et après il peut nous donner, s'il le souhaite, la facilité pour la suite des choses, la suite de la journée. En tout cas, je l'ai vraiment expérimenté pour ce message. Parce que je sais, comment je vais finir ce message? Oh, j'arrive pas, j'ai plus d'idées, machin truc. J'ai passé un peu de temps à prier, pas seulement pour le message, prier pour vous, pour nous, pour moi, enfin, des tas de choses, passer un moment que j'arrivais pas à dormir. Et puis, quand je me suis réveillé le matin, ça s'est terminé rapidement. Développer l'amour de la prière par amour du Seigneur, par amour de l'intimité avec lui. Le mot prière dans les versets que nous avons lus est, à mon avis, à comprendre dans un sens plutôt large, plutôt comme un mot générique pour qualifier le temps passé dans l'intimité avec Dieu. Prière comme lien avec lui, comme moyen de communication et de communion avec Dieu. Pas exclusivement en prière-demande, comme on l'a déjà dit, mais aussi prière-louange, prière-adoration, prière-lecture, pour écouter Dieu. Certains utilisent même le mot de prière-conversation, prière-remerciement aussi. La reconnaissance, c'est important, ne pas oublier. Évidemment, prière-intercession, ce n'est bien sûr pas exclure, tout au contraire. Nous pouvons et nous devons adresser nos demandes à Dieu, nous le savons, il le souhaite aussi. Nos demandes, c'est aussi une expression de communion avec notre Dieu, de reconnaissance de notre dépendance de lui. Et c'est ça qu'il souhaite quand nous le prions. Appelle-t-on ça un culte personnel, moment de prière? Est-ce un temps de parole, un temps contemplatif, silencieux, un temps de chant intérieur, un temps de lecture, un temps de prière, etc. Rien n'est figé, je pense. J'imagine que cela dépend de chacun d'entre nous et de nos circonstances. J'espère simplement que ce n'est pas une corvée, une contrainte, ni une obligation, mais une joie de le faire. Beaucoup est sans doute possible et peut sûrement être considéré comme temps de prière, car alors la prière n'est plus seulement l'expression d'une demande ou l'attente d'une réponse, mais quasiment notre respiration. Vous avez sans doute déjà entendu cette expression qui dit que la prière est ou devrait être la respiration du chrétien. La prière peut de fait prendre des formes très diverses, mais effectivement, pourvu qu'elle devienne de plus en plus notre respiration, quelque chose dont nous ne pouvons plus nous passer. Pourvu qu'elle devienne quelque chose dont nous ne pouvons plus nous passer. Être constamment en lien avec Dieu, conscient de sa présence, pas seulement une présence externe, lointaine, que nous devons rechercher, mais sa présence en nous, que nous devons le laisser nous développer en nous, seul, en couple, en famille, en église. En découvrant Dieu, en l'acceptant à notre conversion, nous avons découvert des choses extraordinaires, quelqu'un d'extraordinaire. Et selon la promesse du Seigneur, rien ni personne ne pourra nous ravir de sa main, ni nous en séparer, nous le savons. Pensons-nous cependant avoir tout déjà connu de lui, tout compris, tout découvert, ou y a-t-il encore plein de merveilles à vivre et à partager ? Évidemment, ma question est un peu orientée, et vous en connaissez bien évidemment la réponse. Je ne fais que quelques rappels, mais avons-nous envie d'en découvrir plus, d'en vivre plus ? Oui, assurément, je l'espère en tout cas. Et donner à chacun de nos frères et sœurs envie de toujours davantage s'approcher du Seigneur, donner à nos contemporains envie de le rencontrer, telle est notre mission, je pense. Donner à chacun de nos frères et sœurs et à nous-mêmes envie de toujours davantage s'approcher du Seigneur, donner à nos contemporains envie de le rencontrer, telle est notre mission. Dans la prière de Jésus, rapportée dans l'évangile de Jean, chapitre 17, que j'évoquais tout à l'heure, la prière sacerdotale, Jésus dit, et je pioche quelques paroles seulement, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous, qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Qu'ils soient un, comme nous nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Nous connaissons Jésus-Christ, c'est vrai, et nous connaissons le vrai Dieu, c'est vrai. Ainsi nous avons la vie éternelle. Si cela est acquis, sans aucun doute, n'y a-t-il pas quand même dans cette prière de notre Seigneur un appel à une connaissance sans cesse approfondie, renouvelée ? Je le crois, car Jésus ne dit pas seulement « Je leur ai fait connaître ton nom », mais rajoute aussi « Je leur ferai connaître ». Nous avons tant toujours encore à découvrir. En tout cas, personnellement, je sais que j'en ai besoin et que ça me fait parfois défaut. Quand je m'écarte du bon chemin ou quand je me laisse déborder, n'avons-nous pas besoin d'être gardés, d'être plus un avec Dieu et avec les frères et sœurs, d'avoir notre joie renouvelée, perfectionnée, d'être sanctifié, d'être rempli de Dieu, consolé, fortifié, encouragé, apaisé. Oh oui Seigneur, j'en ai besoin. Oh oui Seigneur, j'en ai envie. Assurément, j'ai besoin de temps avec toi, de davantage de temps d'intimité, de communion, de temps de prière. Aide-moi à prendre ce temps, à te donner ce temps. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Qu'ils aient en eux ma joie parfaite, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. prenons un peu de temps pour réfléchir, prier, remercier en nous-mêmes notre Dieu pour ce privilège de le connaître et de pouvoir être en intimité, en communion avec lui. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, te remercier de ce que tu nous connais. Et nous pouvons aussi te connaître, même si notre connaissance est encore imparfaite. Tu veux nous faire grandir, grandir dans la communion avec toi, dans la relation avec toi, dans notre connaissance de toi. Nous voulons pas voir cela comme un objectif qui se dérobe sans cesse devant nos yeux, mais au contraire comme un privilège de pouvoir encore découvrir des tas de merveilles, des richesses en toi, dans ta parole. Merci effectivement Seigneur pour ce privilège de pouvoir être dans ta main, d'avoir un sens à notre vie et d'être béni dans la communion avec toi. Aide-moi à ne pas me laisser déborder par toutes les choses à faire de la vie, à savoir mettre ce temps à part, cette bonne part, pour rechercher la communion avec toi, et que cette communion puisse m'aider dans toutes les choses à faire ensuite. Et je te loue pour ta fidélité à mon égard, jour après jour. Aide-nous, Seigneur, oui, à avoir toujours cette envie. Nous avons le besoin, mais donne-nous aussi toujours l'envie de te laisser plus de place, de rechercher ta face et de vivre étroitement avec toi pour que ça puisse rejaillir sur nous-mêmes et autour de nous aussi. Il est bon de te connaître, Seigneur. Vraiment, je te loue, je te remercie pour ce privilège d'être compté parmi tes enfants, dans ta famille, de pouvoir être un avec toi vivant en nous. Merci. Amen.